France Inter, il est 8h. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous. Le Brexit va-t-il sauver l'usine Ascoval près de Valenciennes? Une entreprise britannique est candidate à la reprise. La justice se prononce aujourd'hui. British Steel a besoin de s'implanter sur le continent pour compenser la sortie de l'Union européenne. Le 1er mai en France, mobilisation soutenue et Black Bloc contenu. Manifestation tranquille presque partout en France. Nous serons à Caen. Des tensions à Paris. Ce matin, des syndicalistes policiers répondent aux accusations de la CGT. Vous en parlerez avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, il s'agit de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle sera donc au micro de France Inter dans quelques instants. Le standard est ouvert pour dialoguer avec elle. Donc, appelez 01 45 24 7000, sinon les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Au sommaire ce matin, la diplomatie des vieilles pierres d'Emmanuel Macron. Il reçoit le président italien au Clos Lucé d'Amboise et au château de Chambord. Du trottoir aux plages, la mairie de Granville déclare la guerre aux crottes de chien. Une étude scientifique sur les effets de la solitude sur la santé mentale et le retour de Bret Easton Ellis en librairie.
France Inter.
C'est le jour J pour les salariés d'Ascoval dans le Nord. Au lendemain de la fête du travail, la justice doit se prononcer sur les différents projets de reprise de l'aciérie qui emploie près de 300 personnes. Trois offres sont en lice, notamment celle de British Steel. Maxime Debs avec cette proposition de rachat, l'entreprise britannique essaie d'anticiper la sortie de l'Union européenne.
Officiellement, aucun rapport. Si le sidérurgiste britannique s'est positionné sur le dossier, le Brexit n'a rien à voir, mais Bruno Kobzinski, à la tête de l'intersyndicale chez Ascoval, est lui convaincu du contraire.
C'est sans doute ce qui explique pourquoi British Steel n'était pas là au début de notre histoire et qu'il arrive maintenant.
Car de sources proches du dossier, British Steel serait bien embêté si demain le Royaume-Uni sortait de l'UE. Le groupe qui a son siège outre-Manche pourrait se retrouver isolé avec un risque financier s'il veut continuer à commercer avec les Européens.
On suppose des taxes et puis un effet volatile de la livre sterling qui ne sera plus lié à l'euro. Donc c'est forcément des éléments qui interviennent dans le choix.
Surtout British Steel compte aujourd'hui 5 usines en Grande-Bretagne pour seulement 2 sur le continent. La première en Moselle à Hayange, la deuxième aux Pays-Bas. Demain, il faudra bien les alimenter. Sur ce point, Nassim Bardi de la CGT déroule les arguments.
Nous, à Saint-Saulve, on est capable d'alimenter la Hollande par la voie fluviale et Hayange par la voie ferrée. Donc c'est un site stratégique pour British, pour tout le monde, donc on verra.
Les 268 salariés, en tout cas ce matin, vont encore faire les 100 pas en attendant la décision qui peut-être enfin les délivrera.
En Gironde, la CGT de l'usine Ford Blanquefort saisit la justice. Ford va fermer l'usine de boîte de vitesse et supprimer 850 emplois. La CGT l'accuse d'avoir exagéré les difficultés économiques pour fermer le site.
Il est 8h03, la journée du 1er mai. Hier, tendu à Paris, calme ailleurs.
Avec une mobilisation en hausse par rapport à l'année dernière, 310 000 manifestants en France selon la CGT, 164 000 selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 40 000 à Paris selon le cabinet Occurrence pour France Inter. Contrairement à l'an passé, les Black Blocs ont été contenus dans la capitale, mais il y a eu des échauffourées. Des individus se sont introduits dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La ministre de la Santé est attendue sur place. Témoignage à retrouver sur franceinter.fr. Et puis plusieurs syndicats accusent la police d'avoir chargé leur cortège. Vous avez peut-être entendu Philippe Martinez de la CGT à 7h. Il est très en colère contre les autorités. Mais ce matin, d'autres syndicalistes lui répondent. Des syndicalistes policiers. Emmanuel Leclerc.
Ils sont quasiment tous montés au créneau hier en fin d'après-midi. D'abord, les syndicats de gardiens de la paix, de forces ouvrières à Alliance Police, furieux d'entendre certaines accusations des plus hauts responsables de la CGT et d'autres syndicats. Un responsable estime que M. Martinez aurait mieux fait de remercier les policiers de l'avoir protégé. La préfecture de police a également réfuté toutes les accusations d'un usage sans discernement de la force publique. Dans un communiqué, elle souligne que la CGT n'a jamais été la cible des policiers et des gendarmes, qui ont assuré, je cite, leur mission avec détermination face à des casseurs violents. Pour le patron du syndicat des commissaires, David Lebars, ce qui s'est passé hier après-midi à Paris a permis cette fois aux forces de l'ordre de prendre rapidement le dessus avant la constitution d'un véritable black bloc comme le 1er mai 2018.
Les forces de l'ordre sont des gens qui sont respectueux des lois et des règlements. Ils sont là pour faire régner l'ordre et l'action ne veut pas dire répression, ça veut dire disperser les groupes à risque. Monsieur Martinez crie aujourd'hui que les forces de l'ordre sont venues à son contact. Ça n'est pas la réalité. arrivée, les forces de l'ordre sont venues séparer des groupes à risque qui venaient au contact des cortèges. Et on voit le résultat aujourd'hui. La nébuleuse Black Bloc, pour le moment, n'a pas réussi à se constituer comme elle l'espérait ou comme elle le souhaitait. Il faut qu'on reste mobilisé.
Hier soir, plus de 250 manifestants étaient toujours en garde à vue dans différents commissariats de la capitale.
Hier, les défilés se sont bien passés à Toulouse, Dijon, Lille, Marseille, Lyon, Nantes, Saint-Étienne, Strasbourg. À Caen, en Normandie, ils étaient entre 2 et 6 000 manifestants, des salariés, des syndicalistes et des gilets jaunes. Adrien Beria.
On est là !
Et les gilets jaunes sont même en tête de cortège tout au long de la manifestation.
Ils sont en tête de manif, ils le méritent bien. Allez, bonne manifestation les camarades.
Les syndicats, organisateurs du rassemblement, les laissent devant. Et c'est bien normal, estime Gaëtan, un gilet jaune canet.
Quelque part, je pense qu'ils se sentent peut-être un peu obligés aussi. Je veux dire, c'est l'actualité. Pour moi, ça me paraît normal. Après, c'est un juste retour des choses. On ne pouvait pas se retrouver derrière. En ce moment, c'était pas possible.
Alors même si dans le cortège, ils ne se mélangent pas vraiment, s'afficher ensemble, c'est le seul moyen de se faire entendre, selon Michel, militant de la CGT.
Convergence gilet jaune, gilet vert, enfin gilet rouge. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne solution.
Cette fameuse convergence des luttes, Gaël veut l'incarner.
Je suis syndiquée sud d'éducation, je lutte contre la réforme du lycée en cours. Gilet jaune depuis le 17 novembre effectivement, et dans toutes les luttes climat aussi qui ont eu lieu à Caen. Parce que c'est un tout, on ne s'en sortira pas si on ne rentre pas dans un système de solidarité, d'entraide et de partage des richesses.
Un objectif commun, mais des chemins différents. Les gilets jaunes appellent à reprendre les ronds-points ce week-end. Les syndicats, eux, vont descendre dans la rue jeudi prochain pour défendre la fonction publique.
Adrien Beria de France Bleu Normandie à Caen. La loi Notre-Dame arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'assouplir certaines procédures pour reconstruire la cathédrale en 5 ans. Dans le Parisien, le ministre de la Culture, Franck Riester, explique que les dons pour Notre-Dame seront exonérés de 75% d'impôts jusqu'à 1000 euros et que l'État tranchera sur le projet de reconstruction du toit et de la flèche soumis à un concours international.
Il est 8h07, notre patrimoine au cœur de la politique. Avec un grand P.
Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui son homologue italien Sergio Mattarella au Clos Lucé d'Amboise et au château de Chambord. Il s'agit de calmer le jeu entre la France et l'Italie. Au début de l'année, les échanges avaient été tendus entre Paris et Rome, entre Macron, le pro-européen, et Salvini, l'eurosceptique d'extrême droite. Alors pour réconcilier les deux pays, un Toscan qui a fait carrière en France, c'est Léonard de Vinci, mort à Amboise il y a 500 ans. Cyril Gradiani.
Le choix d'Amboise est fort symboliquement. François Ier, sacré roi de France à seulement 20 ans, y a passé son enfance. Et c'est dans ce château que le souverain, réputé pour être un roi bâtisseur, fit venir Léonard de Vinci. On a saisi les messages. Une nouvelle fois, pour accueillir un homologue étranger, Emmanuel Macron use de la diplomatie des belles pierres. Mais Amboise, c'est aussi un écho à l'art d'être français, développé la semaine passée par le président. L'art d'être français, c'est se souvenir dans quel passé nous nous enracinons, ce qui nous donne notre force pour le présent et nous permet de nous projeter vers l'avenir, explique un conseiller de l'Élysée. Pourtant, Emmanuel Macron n'a pas d'enracinement propre, du fait de sa toute jeune histoire politique. Tous les précédents présidents pouvaient cultiver leur Nièvre, leur Corrèze, leur Auvergne. Ils y avaient été élus, note son entourage. D'où la volonté du chef de l'État d'utiliser les grands monuments nationaux pour non seulement séduire ses hôtes de marque, mais aussi se les réapproprier et tenter, à travers ces lieux historiques, de faire le récit de son quinquennat.
Elle pense avoir trouvé le coupable. Theresa May limoge son ministre de la Défense. Selon une enquête interne, c'est bien lui, Gavin Williamson, qui a raconté à la presse britannique une réunion secrète autour de la Premier ministre. Réunion où il avait été décidé d'autoriser le chinois Huawei à développer la 5G au Royaume-Uni. Une manifestante tuée au Venezuela et 46 personnes blessées. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, la femme de 27 ans a pris une balle dans la tête près de la base aérienne de la Carlota à Caracas où des soldats s'étaient soulevés avant-hier. On le sait, les États-Unis soutiennent le président autoproclamé, Juan Guaido. Pour le secrétaire d'État Mike Pompeo, une intervention militaire est possible si c'est nécessaire. C'est la déclaration de la nuit. Et à Washington, l'ambassade du Venezuela est le théâtre de manifestations, Grégory Phillips.
L'ambassade du Venezuela aux États-Unis est un bâtiment de 4 étages en briques rouges, abandonné par les diplomates expulsés, mais occupé depuis début avril par des Maduro. Au total, une vingtaine de personnes, essentiellement des ressortissants américains, appartenant à des mouvements d'extrême gauche, qui se sont donc enfermés dans le bâtiment. À l'extérieur, sur le trottoir, les pro-Guaido, dont Christine Brunelli, une vénézuélienne venue manifester pour, dit-elle, récupérer son ambassade.
Guaido a été élu par le peuple.
démocratiquement, il est le seul qui est vraiment légitime.
Pompeo dit que l'option militaire est sur la table. Est-ce que les États-Unis doivent intervenir?
Ce n'est pas les États-Unis qui vont envoyer des marines. Ça, ce n'est pas une solution.
L'ambassadeur, nommé par Juan Guaido, est là aussi sur les marches du bâtiment. Il harangue la foule, tandis que depuis les fenêtres du poste diplomatique, les pro-Maduro crient aussi « hands off, bas les pattes » et dénoncent ce qu'ils appellent un coup d'État impérialiste de la part de Trump sur un pays souverain. Les Secret Service américains, eux, se contentent d'observer. 3300 kilomètres séparent Caracas et Washington, mais on a l'impression que la crise vénézuélienne se rejoue ici, à l'angle de M Street et de la 30e rue. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Ces événements au Venezuela perturbent la production du pétrole, ce qui fait monter le prix du brut. Et ce n'est peut-être pas fini avec de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran qui entrent en vigueur aujourd'hui. Les pays qui achètent du pétrole à Téhéran seront taxés par les États-Unis. 8 pays sont concernés, dont la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, la Grèce ou la Turquie. Dans le même ordre d'idées, une vieille loi américaine votée en 1996 mais jamais appliquée entre en vigueur aujourd'hui, sur décision de Donald Trump. Elle permet aux Cubains vivant aux États-Unis de porter plainte contre les entreprises qui utilisent des biens ou des infrastructures confisquées par le régime castriste. 2 milliards d'euros d'investissement sont en jeu. Ce matin, l'Union européenne promet de réagir à cette loi qui serait, je cite, « contraire au droit international ».
Il est 8h11 quand la solitude, Frédéric, favorise les troubles psychiques.
Dépression, anxiété, fatigue, phobie, perte de mémoire, quel que soit l'âge ou le sexe, la solitude est mauvaise pour la santé mentale. Voilà le résultat d'une étude réalisée par l'université de Versailles-Saint-Quentin sur plus de 20 000 personnes. Étude lancée il y a 25 ans, Véronique Julia.
La même enquête a été menée en 1993, 2000 et 2007 sur des personnes âgées de 16 à 64 ans vivant en Angleterre. À chaque fois, on aboutit au même résultat. Le risque dépressif ou anxieux est multiplié quasiment par deux chez les personnes vivant seules. Une constante donc qui ne dépend ni de l'âge ni du sexe. Louis Jacob est épidémiologiste et co-auteur de l'étude.
On a des différences mais qui ne sont pas significatives et vraiment il faut partir du principe que le risque concerne tous les types de publics.
Ce risque multiplié par deux, Louis Jacob le pense d'ailleurs sous-estimé par l'étude, qui ne prend pas en compte les sans-abri par exemple, et qui s'appuie sur du déclaratif. Or, on sait que les problèmes mentaux sont souvent difficiles à admettre. Dans plus de 80% des cas, ce n'est pas tant la solitude objective que le sentiment d'être seul qui est associé à ces troubles.
Le fait vraiment de ne pas avoir d'attache familiale ou amicale, donc ça c'est objectif. Et ce qu'on montre dans notre étude, c'est que c'est plus le fait de se sentir seul subjectivement qui explique le fait d'avoir une pathologie mentale.
D'où cette conclusion des chercheurs. Pour éloigner ce sentiment de solitude, il faut préconiser du sport, des animaux de compagnie, des loisirs, autant d'interactions qui réduiront cette impression. Ça paraît simple comme ça, c'est pourtant crucial pour l'état mental d'une population qui, sous l'effet du vieillissement notamment, ou de ruptures conjugales plus nombreuses, vit aujourd'hui de plus en plus seule.
Une étude à retrouver en détail sur franceinter.fr. Autre étude scientifique menée en Autriche et révélée hier dans une revue américaine, le contact avec les humains ne rend pas les animaux plus altruistes. Plusieurs tests ont montré que des chiens domestiqués partageaient moins leur nourriture que des loups sauvages qui vivent en meute. Et oui, comme si fréquenter l'homme rendait égoïste. Pas besoin d'une étude scientifique en revanche pour constater les nuisances des crottes de chiens, qui sont d'ailleurs souvent le fait de leur maître. À Granville en Normandie, la municipalité a décidé d'écrire des messages d'avertissement sur les trottoirs, Mathilde Himy.
Devant l'incivilité, la mairie de Granville sort la bombe de peinture et taque ses propres trottoirs avec plus ou moins de poésie. Ici commence la mer, au pied d'un caniveau, ou trottoir, pas crottoir, placé à des endroits stratégiques, explique l'adjoint au maire Pierre-Jean Blanchet.
La ville est formée de plusieurs collines et avec le centre-ville qui est plutôt en pied de colline. C'est là qu'il y a toutes les terrasses de café, donc c'est là qu'il y a un maximum de gens qui peuvent être amenés à jeter des mégots et c'est en plus l'endroit le plus proche de la mer. Donc là, on a plutôt ciblé le centre-ville. Alors que pour les déjections canines, les gens font attention quand même dans les rues principales. C'est plutôt des rues secondaires.
Pierre-Jean Blanchet espère une prise de conscience car en cas de forte pluie, déjections et mégots se retrouvent sur les plages.
Ils finissent dans le caniveau, les caniveaux finissent vers les avaloirs et les avaloirs mènent vers les ruisseaux et vers la mer. Les services de propreté balayent l'essentiel, mais il y a un tiers en fait qui finissent sur les plages. Et un mégot, pour le détruire, il faut compter 5 ans. On est très attentif à la qualité des eaux de baignade, il y a quelques comportements à changer.
Granville préfère pour l'instant cette sensibilisation à la verbalisation des propriétaires canins ou fumeurs indélicats.
Allez, vous allez être content, Nicolas. Brett Easton Ellis revient. Il n'avait rien publié depuis 10 ans. L'écrivain américain nous offre cette année un livre très personnel, très engagé, qui s'appelle White. Et il ne fait ni dans le consensuel, ni dans le politiquement correct. Ilana Mor-Youssef.
Qui d'autre que lui peut se permettre de ridiculiser Meryl Streep et sa diatribe anti-Trump à la cérémonie des Golden Globes? Brett Easton Ellis secoue le prêt-à-penser qui engourdit notre époque et ça fait du bien. Dans cette série de textes personnels, il évoque ses années de formation à regarder des films d'horreur qui l'ont préparé, dit-il, à affronter l'âge adulte. Mais les pages les plus percutantes sont celles où il éreinte la culture du politiquement correct. Il a lui-même fait les frais de cette culture qui prône la tolérance et s'empresse d'exclure qui ne pense pas comme elle. Celle qui fabrique des récits victimaires en série, celle où pour se sentir exister, il faut être liké sur les réseaux sociaux et où la moindre blague peut ruiner votre vie. Riez de tout ou vous finirez par ne plus rire de rien, prévient Brett Easton Ellis. Il pulvérise la bêtise politique des démocrates américains, aveuglés selon lui par leur sentiment de supériorité morale, incapables face à Trump de réagir autrement que par une hystérie qui rend service à leur adversaire. C'est de loin l'analyse la plus intéressante qu'on ait lue sur le sujet.
Brett Easton Ellis, ça s'appelle White.
Et c'est chez Robert Laffont, je crois, dans la collection.
J'espère, j'ai pas vérifié.
Pavillon.
Bravo.
On va revérifier, mais je crois que c'est ça. Merci Frédéric Mettezo.